EducPop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.
Je suis Juliette et je suis avec Valou. Bonjour Valou.
Bonjour.
Et on est toutes les deux de l'association CEP, comme les champignons. CEP, c'est une association d'éducation populaire à Valence qui propose des ateliers de quelques heures, des stages de plusieurs jours, des événements pour se rencontrer et de l'accompagnement personnalisé pour les initiatives d'EducPop sur le territoire. Un peu comme le rhizome des champignons qui nourrit la forêt, CEP, c'est un terreau dans lequel on a envie que les gens viennent puiser pour devenir des agitateurs et des agitatrices sociales. On y découvre des enjeux politiques et des thématiques de société, on s'y familiarise avec des outils et des méthodes d'éducation populaire, on rencontre d'autres personnes curieuses et engagées et on y crée des occasions de passer à l'action et de faire ensemble.
Dans cette perspective, nous sommes avec vous une fois par mois pendant 30 minutes pour vous partager notre passion de l'éducation populaire. Nous vous proposons un tour d'horizon de ce qui constitue, selon nous, l'éducation populaire et nous découvrons ensemble des sujets, outils et invités au fil des émissions. Bienvenue dans EducPop, l'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Et aujourd'hui, pour notre dernière émission de la saison, on va s'intéresser aux enfants et aux personnes mineures et à la place qu'elles ont dans l'éducation populaire. Ou plus exactement, comment le rapport aux enfants façonne l'éducation populaire depuis ses débuts en France. Avec les mouvements laïques et religieux du scoutisme, les organisations politiques de jeunesse, les chantiers de jeunes pour retaper du patrimoine ancien, toutes les branches de l'EducPop développent leur propre cadre d'accueil et d'accompagnement de la jeunesse. Toutes ont leur propre perception des enfants et de ce que la société attend d'eux. Valou, est-ce que tu peux nous donner des exemples ?
Oui, tout à fait. On pense notamment aux camps scouts, quasi paramilitaires, pour apprendre aux enfants l'ordre et l'autorité, la débrouille dans des situations inconfortables, la compète et le respect de la hiérarchie, par exemple. Il existe aussi des centres aérés dans chaque ville et village, qui sont plutôt des garderies géantes pendant que les parents travaillent et qui adoptent toutes le même rythme, les mêmes codes, les mêmes règles étranges, genre ne pas courir, ne pas crier, et qui façonnent les gamins avec brio, j'en sais quelque chose. Il existe aussi des colos pour les enfants de familles plus aisées, où l'on fait toutes sortes d'activités sportives et culturelles de ouf, genre du kitesurf, de la planche à voile, de l'équitation, tourner un film, faire des voyages à l'étranger. Ça, c'est de l'éduc-pop plutôt spectaculaire, qui n'a pas grand-chose de populaire d'ailleurs, et qui s'appuie surtout des activités de consommation. Alors là, émotion, crush amoureux et sensations fortes garanties. Il existe enfin, on finit par nos préférés, des espaces où on encadre la place des adultes et on valorise la parole des enfants. Leurs questionnements, leurs sensibilités, leurs envies d'apprendre. On fait l'effort d'embaucher plus d'adultes que les seuils d'encadrement minimal. On propose des colos à tarifs différenciés, donc accessibles aux familles précaires. Ou par exemple, on organise des terrains d'aventure pour bricoler en liberté. Et surtout, on tente collectivement de désamorcer l'arbitraire de l'adulte et de ses punitions qui pleuvent sur les enfants qui ne respectent pas le cadre.
C'est quoi l'arbitraire de l'adulte ?
Je veux dire par là que notre société elle est façonnée par et pour les adultes, pour répondre à leurs besoins, leurs angoisses et leurs normes dominantes. Pour cela, il faut exercer une domination continue sur les enfants. On appelle cela l'adultisme ou l'âgisme, qui désigne plus généralement les rapports de domination et de pouvoir favorisant les personnes situées dans l'âge adulte. C'est un système qui exclut ou réduit les droits des personnes mineures, donc les enfants, les adolescents avant 18 ans, et des personnes âgées, qui sont également maltraitées dans notre société. On peut y ajouter les personnes infantilisées, bien que situées dans l'âge adulte, on pense là aux personnes handicapées, malades ou marginalisées. L'adultisme, lui, se concentre précisément sur la domination adulte à l'égard des enfants et des personnes mineures. C'est un courant d'analyse sociologique et de mobilisation sociale très jeune qui commence en ce moment à prendre de la vigueur depuis les publications de la CIVIS, le comité interministériel contre l'inceste et les violences sexuelles faites aux mineurs, et des mobilisations très récentes pour lever le silence autour de l'inceste. On pense notamment à MeToo Inceste il y a 3 ans. En réalité, mais en fait, dès les années 70, à ce moment-là, l'ensemble de la gauche soutenait la lutte pour la libération des enfants et était solidaire de ces initiatives politiques. Dans cette période d'agitation, les incendies d'écoles, par exemple, étaient très nombreux.
Oh, wow.
Et ouais. Et dans les années 70, il existait aussi des comités de libération de l'enfance à Marseille, à Saint-Étienne, à Lille et ailleurs. Mais aujourd'hui, on ne s'en rappelle plus et cette lutte a beaucoup reculé dans la gauche. Personnellement, je pense que c'est un sujet de lutte, au contraire, dont il faut vraiment se saisir et dont l'éducation populaire doit se saisir urgemment. Parce que la domination adulte est une forme de domination qu'on a toutes et tous vécue en étant mineur. Et moi, je suis convaincue que c'est un ferment pour... Quand on est enfant, on le vit et on est obligé de l'accepter. Et donc, ça nous pousse à accepter toutes les autres formes de domination qu'on va subir, qu'on va faire subir à d'autres plus tard, comme le sexisme, le racisme ou le validisme. Heureusement, des personnes et des collectifs agissent depuis des décennies pour nous proposer d'autres regards, d'autres pratiques et faire vivre des initiatives radicalement différentes. On pense au livre Enfant de Summerhill, un livre qui relate l'aventure d'une école autogérée fondée en 1921 dans la région de Londres. Et je cite la préface. Son fondateur, le psychanalyste Alexander Neil, s'est dressé contre l'école traditionnelle, soucieuse d'instruire, mais non d'éduquer. Il s'est dressé contre les parents hantés par le critère du succès et l'argent. Il s'est insurgé contre un système social qui forme des individus manipulés et dociles, nécessaires à l'ensemble bureaucratique hautement hiérarchisé de notre ère industrielle. Bon, c'est des grands mots pour dire que l'école nous façonne beaucoup aussi pour qu'on soit docile à l'âge adulte et qu'on respecte les horaires de travail, la parole de notre patron, etc. Dans cette même mouvance, je pense au livre d'Ivan Illich, Une société sans école, ou celui d'Yves Bonnardel sur la domination adulte, ou un très récent de l'Observatoire sur la violence éducative ordinaire qui s'appelle Émanciper l'enfance. C'est un beau projet. Je pense enfin aux initiatives d'Élise et Célestin Freinet, des enseignants au sein de l'éducation nationale au milieu du XXe siècle, des années 20 aux années 80, qui ont cassé les codes rigides de l'institution pour y faire rentrer de l'esprit critique, de l'autodétermination et des pratiques démocratiques hyper inspirantes pour redonner du pouvoir aux enfants dans l'école. Et je pense enfin au petit livret paru l'an dernier qui s'appelle « Pour le droit de vote dès la naissance », qui a le mérite de questionner frontalement la manière dont on fait de la politique, dont on la rend intelligible et compréhensive pour le plus grand nombre et pour la population. C'est un petit livre qui affirme que rendre accessible la politique aux enfants pourrait en réalité faire du bien à tout le monde. Ouais. Et ça fait bien écho à ce qu'on porte dans CEP.
C'est clair. Merci beaucoup Valentine pour ces éléments d'éclairage sur le sujet du jour. Et avant d'accueillir notre invité JB, on vous propose une petite pause musicale. Streetlight, pick a fight with a stranger. I've been saving up my anger, stacking up like pennies in my pocket. Whistle like a runaway train and I lost it. Good girls die young, don't you know they got them? All lined up with names on the coffins. Mary Beth died with stars in her eyes. I've been running from a ghost all my life. Oh, ooh, ooh, I hear them crying, crying. Good girls, good girls. Broken pieces under the rug, a thesis of our life, love reeling in the aftermath. I wish that you could take it back, burning in my lungs again, the taste of your carcinogen. Every breath of feeling, I'm getting good at healing. Ooh, ooh, I hear them crying, crying. Your time on me, I follow your liturgy. I'm taking back my offering, the blood I bleed, my eulogy. You buried me, and now I'm singing. Ooh, ooh, I hear them crying. You know they got them all lined up with names on their coffins. Mary Beth died with stars in her eyes. I've been running from a ghost all my life. Nous venons d'écouter Good Girls de Josie Edwards et nous sommes de retour dans l'émission Éduque Pop. L'éducation populaire va-t-elle changer le monde? Aujourd'hui, on s'intéresse à la place des enfants et des mineurs dans l'éducation populaire. Et pour continuer à parler de ce sujet, nous avons un invité. Bonjour JB, on est très contente de te recevoir dans notre émission.
Et bonjour, merci de me recevoir.
Eh bien, avec plaisir. Pour commencer, est-ce que tu veux bien te présenter brièvement ?
Oui, je m'appelle JB, j'ai 29 ans, je suis animateur depuis une dizaine d'années. J'ai commencé chez les scouts, vous en avez un petit peu parlé tout à l'heure, donc j'ai effectivement commencé dans une branche plutôt paramilitaire, puis je suis allé sur une branche après un peu plus éduc-pop, en tout cas où c'était obligatoire d'avoir qui pouvait délivrer le BAFA, donc c'est avec eux que je me suis formé et que j'ai commencé un peu dans le milieu de l'animation.
Et du coup, tu y as été en tant qu'enfant ?
J'y étais que en tant qu'anime.
Ok. Enfin,
voilà. Chez les paras, un statut un peu particulier de sous-chef. Voilà, genre. Mais j'étais quand même en responsabilité, quoi.
Ok.
Je ne l'ai jamais vécu en tant que jeune, quoi. Voilà.
Ok, ça marche. Et alors, du coup, on t'a invité ici parce que tu fais de l'animation, notamment avec les enfants. Est-ce que tu peux nous en dire quelques mots ?
Tout à fait.
Qu'est-ce que tu fais ?
Alors, du coup, avec des copains, on a créé une association qui s'appelle L'Antisèche. C'est une association d'éducation populaire à destination des enfants et de leurs accompagnants qui a vocation à développer leur savoir-faire manuel et relationnel. Donc, qu'est-ce qu'on met derrière ça ? Le savoir-faire manuel, pour nous, c'est effectivement des ateliers de bricolage libres où on fait passer des permis outils aux jeunes. Donc, au même titre qu'on passe en tant qu'adulte, à partir de 18 ans, le permis voiture, on leur délivre un permis à la fin de différents moments de pratique où ils vont utiliser la scie, le marteau, le serre-joint, un peu plein d'outils adaptés en fonction de leur âge. Les plus jeunes qu'on a pris en charge, c'était à partir de 3 ans.
Oh, wow, okay.
Et on est allé jusqu'à des ados qui font forcément des projets de plus en plus costauds avec des outils de plus en plus complexes à utiliser et du coup des projets de plus en plus chouettes, quoi.
Ok. Et avant que tu nous racontes plus en détail ces ateliers, pourquoi est-ce que tu as choisi de t'adresser à des enfants et des mineurs en particulier plutôt que des adultes ? Moi qui travaille beaucoup avec des adultes, je suis curieuse de ça.
Ah, intéressant. C'est une bonne question. Je pense que ça m'intéressait plus comme public. Moi, ça me parlait plus à titre perso sur ce que je me sentais en capacité de faire et de proposer. J'ai toujours fait de l'animation, donc du coup, les contrats BAFA payés 50 euros la journée, commençaient à me pomper un peu l'air. J'avais envie un peu de me renouveler dans cette pratique-là, mais en la maintenant du coup dans quelque chose de plus à ma sauce, quoi.
Ouais, d'accord. Donc t'animais déjà dans des centres aérés,
des colos, exactement.
Et ça te plaisait, et du coup, t'as eu envie de.
Okay. C'est ça. Et là, du coup, les animations qu'on fait, ils sont effectivement aussi proposées dans les centres aérés, mais aussi dans l'espace public. Enfin, je pourrais en parler, quoi.
Ok, ça marche. Et du coup, tu parlais de savoir-faire manuel et relationnel aussi.
Ouais, carrément. En gros, le pari là-dessus, c'est... ça se traduit de différentes manières, mais par exemple, dans les ateliers de bricolage qu'on fait, on met toujours à disposition une bibliothèque. Parce que, un enfant, des fois, ça a envie de scier pendant 15 minutes. Des fois, c'est une heure, mais des fois, c'est juste 5 minutes. Et du coup, des fois, il a juste envie de se poser. Donc, on met en place un petit coin de chill où il y a des livres autour des stéréotypes de genre, autour la question du racisme, autour de qu'est-ce que tu peux faire en tant que garçon, en tant que fille, etc. Et tout, quoi. Et en fait, on met derrière les savoir-faire relationnels, effectivement, toute cette panoplie de savoir-être, en fait, qui a vocation à devenir un meilleur humain, plus inclusif, qui se connaît mieux. Qui a des réponses que les adultes souvent savent pas forcément parler. Donc voilà, c'est la mise à disposition de tout un tas de ressources pédagogiques sur ça. Là, on a un peu envie de se former pour pouvoir intervenir peut-être plus en profondeur sur des vraies interventions qui soient pas juste en marge d'ateliers bricolage, mais que ce soit vraiment un des ateliers que l'asso puisse proposer.
Ouais, que ce soit le thème.
Mais pour l'instant, c'est complémentaire parce que les deux apportent en fait de la même manière, c'est-à-dire que quand on se pose dans l'espace public et que y a une maman et sa fille qui viennent bricoler pendant une heure et demie et qui ressortent avec un nichoir, une cabane, un bateau ou quoi que ce soit, c'est tout aussi empouvoirant que bouquiner un bouquin sur le fait que le racisme ça existait, de ça. Donc en fait, enfin, pour moi, les deux viennent vraiment s'alimenter l'un l'autre, quoi.
De son chouette, quoi. Du coup, c'était la question que j'avais envie de te poser après. Tu dis que c'est empouvoirant. C'est un terme qu'on a déjà utilisé pour parler de l'éducation populaire, mais pour toi, en quoi ce que tu fais, c'est de l'éducation populaire ?
Du coup, c'est de l'éducation d'abord parce qu'on a vraiment un recul sur comment on transmet les savoirs. Donc, vraiment, en ayant des règles assez strictes en fait, sur comment on le transmet. Donc, on va jamais faire à la place de l'enfant. Souvent, effectivement, un enfant, il va avoir envie ou besoin de que l'adulte fasse à sa place, quoi. Là-dessus, il y a un refus qui est fait. Et des fois, même en fait, la plupart du temps, c'est plus l'adulte qui a envie de faire à la place d'eux. Parce que c'est frustrant pour lui ou elle de voir son enfant mettre quatre plombes à signer une planche, alors qu'en fait, il va à son rythme et tout va bien. Et ça ne le mettra pas en échec de quoi que ce soit, quoi. Donc okay. Voilà, tout un tas de pratiques au niveau PEDA où on s'est un peu posé la question de voilà, c'est quoi la meilleure manière d'apprendre un truc, quoi, pour que à la fois l'enfant ne se sente pas en échec et en même temps qu'il se sente bien. Et populaire parce que on a vraiment envie de le proposer dans des espaces qui soient le plus populaire justement. Donc, dernièrement, ce qu'on a pas mal fait, c'est de se poser dans le quartier Polygone. Donc, on l'a fait dans le cadre d'ateliers spontanés où on se posait. On avait mis une affiche une semaine avant et on faisait un atelier ouvert à tous et à toutes, quoi. Et à chaque fois, on a eu 25-30 enfants et tout, quoi.
Donc, ça veut dire que s'il y a pas d'inscription, truc comme non. Ça, vous vous posez et les gens qui veulent viennent, quoi.
C'est ça, exactement. C'est vraiment gratuit, ouvert à tous et avec une vocation vraiment de que tout le monde puisse apprendre un maximum et tout, quoi. Et c'est des formats qui marchent vachement bien, c'est-à-dire que vraiment autant les parents que les enfants en fait s'y prennent au jeu et tout, quoi. Alors des fois il y a un peu ces trucs là de genre quand les parents viennent font incursion dans l'espace d'apprentissage de l'enfant du coup lui prennent les outils des mains etc et tout, il y a des petits recadrages qui se font, mais du coup enfin ça faut à la fois trouver en fait cette espèce de juste équilibre entre l'autorité parentale qui existe comme concept hyper important et tout, quoi, et que tu vas pas recadrer un parent ou le lancer dans un débat sur ça et tout, quoi, mais plus voilà inviter les personnes à dire non mais voilà tu vas être frustré, ton enfant il va galérer mais ça va le faire.
Tu dis ça aux parents?
Ouais complètement. Je préviens souvent en leur disant c'est un espace qui est le plus possible pour eux. Alors des fois on a des formats parents-enfants vraiment qui sont pensés pour, quoi. C'est pour ça qu'on n'est pas encore ce qu'on appelle un terrain d'aventure les séminaires en parlent, c'est que pour l'instant c'est pas un espace géré par et pour les enfants. C'est des espaces où les parents sont pas loin, c'est pas un espace de garde, et où des fois effectivement ils apprennent aussi.
Ouais, ok, ça me fait écho. J'ai des personnes qui sont enseignantes ou professeurs des écoles dans mon entourage et qui disent que finalement le plus compliqué c'est de gérer les parents.
Oui.
Tu partages, ça fait.
Ouais, carrément. C'est-à-dire que les jeunes, enfin la plupart du temps ça se passe hyper bien, quoi. Il y a très rarement des moments où vraiment on est obligé de prendre l'outil des mains de l'enfant, parce que justement l'outil pédagogique du permis outil il permet vraiment d'amener à cette espèce de responsabilisation en fait. Voilà, tu passes ton permis. Ton permis, ça implique de se prendre au sérieux. Et en fait, en leur amenant des outils dits d'adultes, en fait, ils se prennent naturellement au sérieux. Ils se mettent directement à fond dedans, quoi.
Et du coup, ça veut dire concrètement, j'essaye d'imaginer que tu mets dans les mains d'enfants des tronçonneuses ou des scies circulaires. Dit comme ça, moi, ça m'effraie de les utiliser. Du coup, j'imagine.
La plupart du temps, sur les ateliers, en tout cas dans l'espace public, c'est des outils manuels. J'ai juste des visseuses en plus qui sont de l'électroportatif, quoi.
Donc scie à main, par exemple.
Donc scie à main, marteau, pince, serre-joint et papier ponce, c'est les cinq gros outils qui passent, quoi. Et les visseuses perceuses, quoi. Et puis par contre sur des colos, enfin en fait sur des groupes plus suivis, qui sont pas moins sur des moments ponctuels et ça, là je m'autorise, et je vois en fonction du groupe, mais à mettre en service, effectivement les scies sauteuses, les perceuses à colonne, des outils un petit peu plus lourds où vraiment il y a un accompagnement en fait un peu individuel à chaque fois, quoi. C'est-à-dire que on fait vraiment gaffe effectivement qu'il se passe rien, parce qu'en fait je pense qu'il suffirait de pas grand-chose pour que ce genre d'atelier soit blacklisté.
C'était un peu ce que je me disais, que ça a l'air dangereux en fait.
Oui, c'est ça. Et en fait, la plupart du temps, ça insécurise beaucoup plus les adultes que les enfants. C'est-à-dire que c'est vraiment leur peur qui parle avant celle des enfants et tout, quoi. Et les enfants, au début, ils sont souvent en mode on va vraiment faire ça? Vraiment, on devrait. Enfin, ils y croient pas trop au début, quoi. Puis au fur et à mesure, ça prend de ouf, quoi. C'est trop bien. Et encore plus, j'ai envie de dire, les enfants dits en difficulté. Enfin, il y a quelques mois, là, j'ai fait une animation en maison pour tous où il y avait des enfants qui sont classés avec des dossiers TDA, etc. Et tout, quoi. Vraiment, enfants,
TDA, c'est trouble
de l'attention.
De l'attention, ouais.
C'est ça. Et du coup, en fait, c'est, j'ai pas du tout capté que c'était des enfants comme ça durant toute la durée de l'animation qui a duré plusieurs jours parce que, en fait, c'était mes premiers de la classe, quoi, ceux-là. Parce qu'en fait, ils découvraient un format d'apprentissage et un espace d'apprentissage hyper bienveillant, manuel, donc qui n'est pas dans aussi les préceptes de l'éducation nationale qui est très académique, etc. et tout, et qui les met complètement en échec, quoi. Et voilà, quoi.
Bah, c'était une question que je voulais te poser. Pourquoi tu as choisi comme thématique ou sujet d'atelier les savoir-faire manuels, du coup un peu bricolage et relationnel par rapport à d'autres?
Déjà, c'est les deux sujets qui m'intéressent bien. Moi, à côté, je suis artisan Je fais des chantiers participatifs, donc c'est vraiment les formats pour moi qui marchent bien, je trouve, et qui marchent d'autant mieux avec des enfants. J'ai entendu parler, il y a déjà quelques années, de l'initiative des terrains d'aventure.
Tu peux nous en dire un peu plus, ça fait plusieurs fois que...
Ouais, effectivement, j'en parle, effectivement, mais je ne définis pas. Donc les terrains d'aventure, c'est quelque chose qui a été mis en place à la base par les CMA Pays de la Loire. Je parle sous contrôle de Valou qui connaît bien les CMA Pays de la Loire et qui du coup saura aussi pas mal définir. Mais en gros, c'est des espaces effectivement de bricolage libre, gérés par et pour les enfants. Okay. Il y a des adultes référents, donc des animateurs des CMA qui sont présents sur le lieu pour chapeauter un petit peu l'ensemble. Mais ils ont plus pour vocation que l'autogestion puisse prendre dans ces espaces-là que un rôle disciplinaire ou quoi que ce soit, quoi.
Okay.
Et la présence des parents dans ces espaces-là, pour le coup, est assez maîtrisé, c'est-à-dire qu'il est même souvent en dehors, quoi, avec des tables et tout, quoi. Et voilà. Et donc, du coup, c'est quelque chose que je pense que j'aimerais bien à un moment mettre en place sur Valence. Mais en fait, ça se fait vraiment par étapes parce que, encore une fois, il y a les peurs des adultes, des services municipaux, etc. Et tout, quoi.
Ouais, d'accord.
Voilà.
Et d'ailleurs, c'est ma prochaine question. Comment ça se passe, la complémentarité ou pas avec, tout à l'heure on parlait des parents, mais avec les institutions aussi. Parce que du coup, il y a toujours l'école, il y a toujours les centres aérés classiques.
Du coup, il y a différents niveaux. Donc, concernant les centres aérés, ils captent relativement bien, ils accueillent assez bien la question. Rapidement, ils captent l'intérêt qu'il y a derrière et ce que ça peut générer.
Parce que tu fais des ateliers avec des centres aérés.
Donc ça va de se poser avec le centre aéré à la sortie d'une école à faire vraiment plusieurs jours d'animation consécutive, quoi.
Okay.
Donc ça, sur ça, les centres aérés sont grave... ils répondent présent, quoi.
Ouais, okay.
Et concernant les institutions, on a fait pour la première fois du coup des demandes de sub et on a eu quelques sous pour pouvoir justement proposer de manière un petit peu rémunérée, que ce soit pas toujours bénévole, des ateliers dans l'espace public.
Okay.
Et du coup, donc la ville de Valence soutient ça et puis donc on n'a pas rencontré les élus formellement encore, mais voilà, il y a au moins ce soutien financier qui est là cet intérêt que les élus portent au moins sur ça.
Ouais, ils sont prêts à faire une petite place.
Je sais pas jusqu'à quel point, politiquement, ils seraient soutien de l'initiative en question, mais en tout cas, je pense qu'ils y voient l'intérêt comme aussi une proposition pour les habitants des quartiers pour qu'il se passe des choses durant notamment la partie juillet-août où les enfants seront en vacances, où nous, on sera grave présents, quoi.
Ouais, ok. Donc vous allez être bien présents là.
C'est le but, c'est
okay.
Tout à fait le but.
Tout à l'heure, tu parlais de pratiques pédagogiques que tu adoptes avec les enfants, notamment pas faire à leur place. Est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus sur est-ce qu'il y a une posture particulière que tu adoptes justement pour pas reproduire ce qu'on peut voir à l'école de disciplinaire, etc.
Ouais, je peux parler un peu de comment on passe les permis outils. C'est que souvent les enfants arrivent et l'espace pédagogique il est prêt, donc il y a une table pour la scie, une table pour le marteau, une table pour chaque outil en fait.
Ok.
Je propose aux enfants de faire un petit tour de chaque outil. Je leur montre comment moi je les utiliserais. Par moment, j'essaie de leur dire, ok, vous, comment vous utiliseriez ça, montrez-moi, et je corrige, voilà. Donc c'est soit je commence et ils répètent par mimétisme, soit ils commencent et puis je corrige, quoi.
Ok.
Parce que il y a des avantages et des inconvénients sur chacune d'entre elles. Et après, ils ont très vite très envie de partir sur les différentes tables et tout. Et viennent les premiers moments de ils galèrent, ils se font mal, okay. La scie c'est super long, ça fait mal au bras, etc. Et tout quoi. Et là, à ce moment-là, face à ces difficultés-là, du coup, en fait, la posture principale, c'est l'encouragement, c'est vas-y, bah, enfin, je vais pas faire à ta place, mais montre-moi comment tu fais et je vais te remontrer un petit peu quoi. Mais c'est pas du, enfin voilà, c'est pas du, pas du tout du reproche, pas du tout du faire à la place, faire à la place d'eux, etc. Et c'est aussi glisser de manière un peu subtile le ok, tu vas en faire quoi de ces savoirs-là, c'est quoi la motivation que tu vas rapidement y mettre derrière quoi. Parce que si c'est un savoir-faire académique comme un autre qui à terme sera juste une CV, une ligne en plus dans ton CV ou
oui, auquel ils n'ont pas intérêt quoi.
C'est ça, en fait ça sert à rien. Alors que si tu leur dis et si tu te faisais un bureau genre, ou ce serait quoi ton envie, etc. Là genre d'un coup il y a une sorte d'étincelle qui se fait et qui fait que vraiment le jeune il débloque quoi. Ouais, il a grave envie en tout cas de se dire ah c'est pour ça que je vais scier en fait, c'est pas pour rien.
Ouais, okay.
Donc rapidement mettre en place une sorte de motivation qui puisse être personnelle ou collective. Enfin voilà, genre j'ai plein d'enfants qui font des fois des chaises pour leur petite sœur ou pour leurs parents, etc. et tout quoi. Et donc voilà.
Pendant les ateliers
ouais. Okay. Ils disent ce sera pas pour moi mais genre en cadeau ça va être un truc de ouf.
Trop bien. OK. Et qu'est-ce qui te plaît dans le fait d'agir avec et auprès d'enfants?
C'est plus simple qu'avec les adultes.
Ah ouais?
Ouais, je trouve. Sur plein de trucs, c'est plus doux en tout cas. Il y a une spontanéité qu'ils ont assez facilement. Enfin, notamment ce que je fais dans les quartiers, et tout ça, c'est... Enfin, les jeunes, ils viennent juste te voir et moi aussi, ils bricolent avec toi et tout quoi. Enfin, je pense que j'ai aussi... Enfin, dans les ateliers plein air, j'ai un profil type de jeunes qui sont pas timides et qui vont super facilement vers les adultes, etc. et tout quoi. Mais en tout cas, moi ça me plaît trop comme diversité quoi. Et aussi, voilà, l'asso elle a débuté vraiment dans un cadre où on proposait vachement ces types d'ateliers là pour des enfants plutôt de cause de riches quoi. Enfin, en tout cas, genre voilà, des enfants de bobos qui ont déjà fait leur cabane avec leur papa et qui ont déjà un atelier à la maison et tout quoi. Là, le faire avec des jeunes qui tiennent vraiment cet outil là pour la première fois de leur vie, il y a un truc un peu magique quoi. Et ça, ça c'est cool quoi.
Ouais, ok, chouette.
Et sur la partie des savoir-faire relationnels, moi je pense que vraiment une fois que la confiance est un peu installée, il peut y avoir des choses qui se transmettent qui sont chouettes quoi. Notamment, je pense aux garçons sur construire une forme de masculinité qui soit pas virile, notamment enfin liée au bricolage et tout quoi. Je pense que c'est vraiment hyper intéressant quoi. Pour les filles, avoir quelque chose de, c'est possible, c'est pas parce que j'aime le rose que j'aime pas les marteaux et tout ça quoi.
Ouais, ok. Mais c'est vrai qu'il y a une articulation entre l'oppression sexiste et les ateliers de bricolage relationnel qui est particulièrement intéressante.
Ouais. C'est clair. Et j'hésite pas des fois à faire des tables, où j'ai juste des filles, tu vois, alors pour qu'elles évitent de se faire piquer les outils et tout, tu vois. Le balise tel quel, parce que, on sait que ça existe et que, tu vois, que des fois le mélange marche très bien et tout quoi, et des fois tu t'en vois qui sont un peu plus chauds que d'autres et tout quoi, les gars, et du coup
ouais d'accord, faut être vigilant à ça quoi.
C'est ça, exactement.
Ok, trop bien JB, merci beaucoup d'être venu répondre à nos questions, c'est trop intéressant.
Avec plaisir, merci de
m'avoir invité. Et pour finir, on va en savoir plus sur les prochaines dates de CEP.
Pour les prochaines dates de CEP, on a ce dimanche 15 juin, on est partenaire d'un gros événement intercollectif qui s'appelle Affronter l'orage. Faire face à la montée des idées d'extrême droite et du fascisme. Voilà, donc c'est toute une journée de 10h à 19h au 13 bis rue Montplaisir avec beaucoup d'ateliers, tables rondes, etc. Nous, on anime un arpentage le matin sur les leviers d'action face au fascisme et une table ronde de témoignages des habitants de Romans-sur-Isère.
Trop bien.
Et également le vendredi 27 juin, on anime une journée de formation qui s'appelle « Redécouvrir l'éducation populaire ». Découvrir ou redécouvrir. C'est une toute nouvelle formation, donc voilà. N'hésitez pas à vous inscrire.
Où est-ce qu'on peut s'inscrire ?
Par mail, cepes@mailo.com. En tout cas, vous pouvez nous retrouver sur le site internet CEP Asso.
Trop bien, merci Valou. Et puis, c'est notre dernière émission de la saison. On va aller en pause estivale et on se retrouvera à la rentrée de septembre où on fera la saison 2 de cette émission.
Oui.
C'était Juliette et Valentine dans l'émission Éduc Pop. Éduc Pop.
L'éducation populaire va-t-elle changer le monde ?
Juliette et Valentine vous emmènent faire un tour d'horizon de ces pratiques collectives d'émancipation et de transformation sociale.
Une émission mensuelle coproduite par CEP et Radio BLV.